Aujourd'hui, donc, je vous propose une seconde rencontre avec Alfred Tomatis. Vous savez qu'il est médecin, chercheur scientifique, théoricien aussi. Lors d'une première rencontre, il nous a parlé de son champ d'expérience, qui est l'oreille humaine, et des phénomènes qui s'y rattachent, comme l'écoute, le langage, la communication, communication avec soi-même, avec les autres, même la communication avec le cosmos et avec l'univers entier, si possible, un jour. Aujourd'hui, le docteur Tomatis a accepté de nous parler de son itinéraire personnel, c'est-à-dire de lui, de sa vie, de ses expériences fondamentales. Justement, cet itinéraire, on le trouve dans un livre de lui qui s'intitule « L'oreille et la vie », publié chez Robert Laffont. Et il y a quelque chose de remarquable, docteur Tomatis, dans ce livre, c'est que le début et la fin, dans un sens, se ressemblent beaucoup. C'est très étonnant parce que le début, vous racontez votre naissance et vous racontez votre mort, parce que vous étiez un bébé mort-né, disait-on, croyait-on. Et le dernier chapitre, ou à peu près, raconte une autre mort que vous avez expérimentée, il y a à peu près 2 ans, au cours d'un voyage où vous êtes techniquement mort. Cependant, vous voici, vous semblez en excellente santé, alors je crois que là, il y a quelque chose d'extrêmement fascinant à raconter et qui est une clé, je crois, également de votre itinéraire, de votre cheminement dans la vie. J'aimerais que vous commenciez par nous raconter votre naissance, qui a été votre première mort.
C'est ça. Tout d'abord, j'aimerais bien préciser que écrire une biographie me semblait difficile. Je ne pensais pas que ça puisse présenter un intérêt pour l'ensemble. Et puis, chemin faisant, sous la pression surtout de mes disciples, j'ai été conduit à le faire. Et je pense que ça leur a rendu service de voir un cheminement qui, au fond, m'a poussé peut-être dans ma clinique. Et quand vous dites que je suis mort au départ, je crois que c'est vrai, en ce sens que je suis né dans des conditions extrêmement difficiles, dans des conditions que je ne connais pas, on ne les connaît jamais bien, ces conditions de vie fétale. Et toujours est-il que je crois que personne ne savait trop que ma mère était enceinte. Et pour des raisons qui lui étaient personnelles et de difficultés sans doute d'annonce de la bonne nouvelle, je me suis trouvé peut-être un peu chassé prématurément d'elle parce qu'elle devait se serrer un peu de telle manière que personne n'a jamais su qu'elle était au sixième mois.
Vous étiez prématuré.
Et je suis né rejeté au sixième mois.
Vous étiez bien rejeté.
Eh bien, rejetée, ma mère était dans des conditions difficiles à ce moment-là de vie, puisqu'elle était en danger, et tout le monde s'est préoccupé d'elle, en quoi ils avaient raison sans doute, et ce petit rejeton qui sortait, car je pesais moins de 1300 grammes, a fini dans un panier, pris par l'oreille droite qui m'est toujours cassée, et que l'on a mis dans un panier, et tranquillement en train de, ma foi, de ne préoccuper personne.
Mais on vous a mis dans un panier parce qu'on vous croyait mort ?
On me croyait mort, oui. Et je ne dois ma vie qu'à quelqu'un qui a eu une expérience exceptionnelle, qui était ma grand-mère paternelle, qui était là, qui a eu la chance d'avoir 24 enfants, mon père étant le 17e. Et grâce à cette vie de sage-femme extraordinaire qu'elle était devenue par la pratique, elle m'a pris en main et je lui dois d'avoir retrouvé donc une existence réelle après une réanimation qu'elle a su faire. Et ceci est intéressant peut-être, et puisque quand je pense qu'ultérieurement dans ma recherche, j'ai peut-être toujours couru après ce vécu de ces 2 mois et demi qui m'ont échappé, et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, je travaille toujours dans la vie intra-utérine, et peut-être pour savoir quel était ce dialogue qui m'a manqué, je pense que ça a une dimension là dans la recherche, d'un manque, et qui a pu conditionner toute une direction de travail.
Et ça a conditionné votre, en fin de compte, quand vous étiez adolescent, votre décision, je crois également, de devenir médecin.
Et c'est pas comme cela que ça a commencé. Et au début, j'ai toujours été, grâce à cette naissance difficile, un malingre, toujours malade, toujours dans des difficultés de tenter de me faire vivre. Et ma mère, pour d'autres problèmes aussi avec moi, était en difficulté de compréhension. J'étais sans doute un gamin difficile vis-à-vis d'elle. Sans doute j'avais vécu ce rejet difficilement. J'en vécu là une relation difficile sur le plan du contact, du langage et de tout. Et en plus, j'étais démuni d'un père qui, lui, était un être, pour moi, que je faisais exceptionnel, mais qui était chanteur et qui voyageait dans tous les coins du monde. C'est bien que j'étais toujours affronté avec cette mère qui avait quelques difficultés à me comprendre, et surtout un grand-père qui passait sa vie à attiser le tout et qui me faisait que systématiquement, tous les jours, j'étais pour le moins battu. Voilà la situation de départ. Je suis tombé très très gravement malade, et personne ne me croyait malade à l'époque. Je vivais dans le midi de la France, parlant que le provençal, d'ailleurs le niçois très exactement, et l'italien avec ma mère.
Vous ne parliez pas le français.
Je ne parlais pas le français. Et là-dessus, cette chance d'être malade a fait qu'à un moment donné, personne ne voulait me croire.
Cette chance d'être malade.
Cette chance d'être malade m'avait enfin mis un peu à l'abri de tout le monde. Et au fond, est-ce que je tenais à vivre, je n'en sais trop rien, mais toujours est-il qu'après le défilé de quelques médecins, parce qu'on s'était un peu inquiété tout de même de cet état qui faisait que je n'étais plus florissant, mon père n'étant pas là, et on a fait venir donc quelques médecins, dont un qui est le dernier venu, qui lui a bien voulu croire que j'avais quelque chose, et qui, devant tous les symptômes que je présentais, ça semblait quand même assez difficile, et ben, il y a bien d'avoir réfléchi, à lâcher cette phrase qui m'a alors laissé, elle, est absolument suspendue, peut-être pour tout mon avenir, en disant, je sais qu'il a, je n'en sais rien, il faut que je cherche.
Il faut que je cherche.
Ce « je cherche » m'a pénétré, et immédiatement, pendant qu'il continuait de parler, et moi j'étais dans un demi-coma, je me suis dit, je serai comme lui, je chercherai. Il avait raison de vouloir chercher, car en définitive, grâce à une prise de sang, à l'époque, ce qu'il fallait faire tout de même, on avait découvert que j'avais la fièvre typhoïde, le typhus murin, la fièvre de Malte en même temps, ouais. Ce qui aurait tué n'importe qui. Et bien moi, j'ai, grâce à ce médecin, survie. Ce médecin, je te donne son nom. J'ai eu la chance de le retrouver beaucoup plus tard pour aller lui dire mon aventure, et grâce à lui, j'ai pu faire ma médecine. C'était Carcopino, le frère de Francis Carco. Ouais. Donc, il avait une dimension, et plus tard, j'ai soigné ses petits-enfants, et comme la roue tourne. Eh bien, ce déterminisme a fait que je serais rentré ensuite en médecine avec une foi extraordinaire, quand j'y croyais, et ce qui a impliqué que je sois venu seul, à ce moment-là, dans cette décision, toute ma famille étant contre, et surtout ma mère, à trouver auprès de mon père, enfin, une compréhension qui a décidé, comme on pouvait le faire à cette époque, il y a donc quelques 50 ans, et me prendre par la peau du cou et me mettre à Paris pour faire mes études.
Alors, c'était pas pour vous tellement de... Vous n'avez pas décidé de devenir médecin pour soigner les gens qui étaient malades, mais c'était surtout pour trouver.
Pour chercher.
Chercher et trouver.
Oui. Le chercher à soulager, en définitive. Et l'honnêteté de cet homme, disant, je ne sais pas, il faut que je cherche, c'était pour moi vraiment... Déjà, la mise en forme de tout ce qu'est la médecine, en définitive, un médecin est celui qui cherche.
Et c'est peut-être trop facile aujourd'hui, maintenant qu'on connaît votre vie, qu'on sait votre travail scientifique, vous nous l'avez expliqué dans une émission antérieure, c'est peut-être trop facile de dire, c'est peut-être ce qui a déclenché votre vocation de chercheur également, parce que vous n'êtes pas seulement praticien, vous êtes également chercheur.
Je crois que je suis un chercheur, essentiellement, avec peut-être une dimension qui fait que j'applique le résultat d'une recherche.
C'est ça. Les deux vont de pair avec vous.
Je pense que ça va ensemble.
Je crois que c'est dans ce livre-là, L'oreille et la vie, que vous dites qu'il faut absolument que ce soit le malade qui pose la question à laquelle le chercheur scientifique, médecin en l'occurrence, doit trouver la réponse. Donc, vous ne semblez pas croire aux recherches en laboratoire, recherches formelles, hors de la présence du malade.
C'est ça. Elles ont leur raison d'être dans certaines dimensions. Mais par exemple, tout conformé en ce qui se passe dans l'homme en fonction de ce qu'on trouve chez l'animal est aussi difficile. On ne peut pas faire les mêmes rapports, en tout cas sur le plan même pathologique, mais sur le plan psychologique, ça n'a rien à voir.
Mais vous allez même jusqu'à dire que c'est le malade qui doit vous la poser la question.
Et c'est le malade qui nous pose la question, et c'est le malade qui nous fait poser la question, et c'est le malade qui, devant l'échec inhabituel, nous repose tout le conditionnement. Bien sûr, il y a le malade qui est, lui, pratiquement programmé. Il arrive, le diagnostic est fait, on sait que telle médication lui permet de s'en tirer, mais il commet d'échec. Et le médecin qui ose dire... Il n'y a rien à faire, par exemple. C'est épouvantable. On ne fait pas ce métier-là si on est sûr d'un diagnostic qui va effondrer tout le monde.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans le cas où il y a un diagnostic...
Catastrophique.
Oui.
Je cherche. Et j'essaie, en tout cas, de soulager. Même si je n'apporte rien, les gens, sachant que je cherche, commencent déjà eux-mêmes à se sentir réchauffés. Il y a là toute une dimension humaine.
Est-ce que ça peut aider à guérir une maladie?
Ça peut aider à guérir une maladie. J'ai vu des gens... qui, reprenant foi en la vie, et la vie est une source absolument extraordinaire qui vient de partout, qui vient de tout l'univers, qui nous introjecte des énergies colossales, celui qui est accroché risque à un moment donné de voir, en tout cas, quelque chose à repartir et quelque chose pouvoir se faire.
Il y a probablement de vos confrères là qui, vous écoutant dire ça, ne sont pas d'accord avec vous.
Ça ne fait rien, je crois que c'est leur problème, mais ce n'est plus le mien.
Bon, alors si vous voulez, on va remonter un peu dans le temps. On voit dans votre livre qu'à l'âge de 11 ans, vous, petit Niçois, vous retrouvez seul à Paris dans un appartement qu'on a loué pour vous.
Oui.
C'est assez étonnant de voir un enfant de 11 ans s'en aller dans une grande ville étrangère, qui n'est pas sa ville, et demeurer seul en appartement. Comment ça a pu se dérouler?
Eh bien, je crois que j'ai
c'était
eu de la chance.
C'était peut-être très amusant, Marqué, je ne sais pas.
Ça a eu de la chance. Ça serait peut-être plus difficile dans les conditions actuelles. La vie est tout de même beaucoup plus difficile, et je pense que ça serait peut-être plus dangereux que ça n'était à l'époque. Mais enfin, je m'étais organisé. Et non seulement je m'étais organisé pour le faire, la plus grosse difficulté, c'est que je ne parlais pas français, donc il a fallu que je m'y mette. Aller en classe, c'était surprenant puisque j'entendais parler une autre langue. Et j'ai commencé à travailler là comme une brute dans tous les azimuts. Et mieux encore, je me suis déterminé d'emblée à vouloir gagner ma vie, ce qui était aussi autre chose.
Tout en étudiant, tout en étant lycéen.
Et j'ai eu la chance de faire de tout, des enveloppes, porter des paquets, dépanner des commerçants. J'ai payé toutes mes études.
Ça veut dire ça que vos parents ne vous aidaient pas?
Eh bien, mon père, qui était un homme fantastique, m'a donné tous les ans, à l'époque, c'était 6000 francs par an, ce qui était énorme, en 1930-31, pour me payer donc l'ensemble, mais tous les ans, aux vacances, je lui ai rendu les 6000 francs. J'avais dit, non, mon point d'honneur, je crois que j'ai fait une erreur. Je me suis rendu compte plus tard que j'aurais pas dû faire cela, car je l'ai frustré terriblement. Pense que dans son métier de père, eh bien, je me suis rendu compte que je l'avais sans doute blessé.
Mais je vois mal un petit garçon d'11 ans, 13 ans, 14 ans, comme ça en montant au lycée, et qui vit seul dans un grand appartement à Paris, et qui s'astreint à l'étude et au travail sérieux. Ce que vous avez dû faire, parce qu'ensuite vous avez fait votre médecine et vous avez toujours continué à étudier.
Eh bien, je crois que j'ai eu justement cet accrochage, cette foi de vie, cette foi de recherche, et qui me permettait peut-être de comprendre que, d'une manière sous-jacente, sans espérer être un promu du système, je comprenais peut-être le sens d'une vie qui était toujours, au fond, au service des autres.
Vous étiez un enfant travailleur?
J'étais très travailleur, mais je suis d'une famille de travailleurs. Mon père, qui est d'origine piémontaise, j'ai vu mon père un être encore une fois bien exceptionnel, puisqu'il lui-même, n'ayant pas pu faire d'études, s'est trouvé à un moment donné travailler, et j'ai vu mon père travailler tout le temps, jour et nuit. Il arrivait à faire les 3-8 à lui tout seul. Il faisait dans un journal, celui qui fondait les plombs pour pouvoir à un moment donné faire la typographie. Vous dire à quel point cet homme a travaillé, il a appris le français tout seul, il a appris la musique, puisqu'il a fini son même chanteur à l'opéra, tout seul. Et il a appris l'italien qu'il écrivait remarquablement. Et cet homme-là était pour moi un exemple fantastique dans toutes les dimensions. Et j'ai cru que vivre, c'était travailler autant que lui. Si bien que superposant ces deux images, pour moi, je ne concevais pas autrement la vie que dans le travail.
C'est encore une preuve vivante, là, que ce n'est pas ce qu'on dit tellement qui est important pour influencer les enfants et les plus jeunes, mais c'est bien ce qu'on fait. On revient toujours à ce vieux principe.
C'est sûr.
C'est l'exemple. Ben, vous avez eu comme professeur, entre autres, un homme qui depuis est devenu une grande sommité en France, Jean-Paul Sartre. Il a été votre professeur de philo.
Eh bien, il était professeur de philo du temps où on pouvait faire maths et philo. Je faisais les deux. Il était mon professeur de philo en mathématiques. Et nous étions 32 dans la classe. Et j'avoue que j'avais dans l'autre côté un autre philosophe qui est devenu aussi célèbre, qui était Bastide. Mmh. Et autant j'avais d'accrochage avec Bastide qui m'a ouvert la philosophie. Et moi, je crois que dans toute ma médecine est toujours impliquée avec un peu une notion philosophique, mais sans le côté difficile.
Oui, parce que votre science semble toujours déboucher sur des concepts philosophiques.
Je crois qu'il faut le faire, parce que sans quoi on se calfeutre.
Est-ce que c'est Sartre qui vous a donné la
poussée? Rien du tout. J'ai retrouvé plus tard, déménageant, des cahiers sur lesquels j'avais écrit ceci. Et j'ai eu Jean-Paul Sartre comme professeur de philosophie, et je crois que j'ai eu la chance de rien comprendre à ce qu'il m'a dit.
La chance de ne rien comprendre.
Eh bien, effectivement, c'est au moment où lui-même découvrait Heidegger, c'est au moment où il était existentialiste, et je n'avais pas très bien compris pourquoi j'étais tellement opposé à cet existentialisme. Et plus tard, j'ai mieux compris, puisque j'ai pris une autre direction, Sartre, je l'ai laissé, mais j'ai vu la moitié de la classe, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais en 32, j'en ai vu exactement 16 qui sont partis dans l'existentialisme jusqu'au suicide. Donc c'était quand même une preuve de quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai compris beaucoup plus tard, en retrouvant les travaux d'Heidegger notamment, qui est devenu essentialiste, abandonnant l'existentialisme, et comprendre que l'essence était autre chose, et qu'exister, comme le dit bien Heidegger, ça voulait dire ne pas être.
Que ça ne suffisait pas.
Eh bien, dire aux jeunes qu'à un moment donné tout est permis, et que la vie ne vaut peut-être pas la peine d'être vécue, puisqu'elle ne donne que quelques menus plaisirs, alors il faut en abuser, ou alors c'est pas la peine, c'est d'aller se suicider. Et c'est très désobligeant. Et qu'un Lucrèce ait pu le faire et le dire, mais qu'il exécute lui-même l'acte à 42 ans, je comprends. Mais qu'on dise aux autres d'aller se suicider
sans le faire soi-même,
ça je ne comprends pas.
D'accord. Alors écoutez, il faut un peu brûler les étapes. Vous devenez médecin, vous devenez spécialiste de l'oreille, vous faites les recherches dont vous nous avez parlé brièvement au cours d'une première émission. Et puis, je veux y arriver tout de suite parce que je crois que c'est capital, c'est très important pour si on veut bien comprendre votre conception de la vie et de l'existence. À cette deuxième mort dont j'ai parlé, parce que vous êtes mort également en 1976 à l'occasion d'un voyage Espagne.
Il faut vous dire que je travaille comme une brute depuis toujours. Je travaille à peu près 20 heures par jour, j'ai peu de sommeil. Je n'ai pas jamais plus de 3 jours dans un même lit. Le reste, je le fais en avion. Et lors d'un épuisement à Paris, où j'avais vraiment travaillé 3 jours sans m'arrêter, j'ai été obligé d'aller à Fribourg pour travailler, faire du laboratoire. Dans la même journée, j'ai conduit une de mes collaboratrices à Genève, et puis je suis retourné sur mes pattes à Fribourg pour finir mon laboratoire. Le soir, je suis retourné à Genève pour prendre l'avion pour l'Espagne. Et là, eh bien, j'ai fait un breakdown total, j'ai fait un collapsus neurovégétatif, et je suis mort tranquillement dans l'avion.
Bon, tout de suite, là, qu'est-ce que c'est qu'un collapsus neurovégétatif?
Eh bien, subitement, le cœur s'est arrêté, les vaisseaux sont arrêtés, et je suis tombé dans mon fauteuil tranquillement.
Est-ce que ça correspond à la description de la mort, la description clinique de la mort?
J'avais arrêt, que c'est la mort totale.
C'est-à-dire, le cœur est arrêté,
le
sang ne circule plus?
Le sang ne circule plus.
Le cerveau, l'électroencéphalogramme, qu'est-ce que ça donnerait?
S'il n'y a eu plus rien, c'est vrai, il y a
plus
eu
rien.
Un arrêt.
Donc vous étiez mort?
J'étais mort, ma femme était à ma droite, un ami à ma gauche. Et là, donc, dans cet épuisement qu'on pouvait concevoir, c'était une sorte d'affaissement de la machine, il m'est arrivé donc de vivre cet épisode-là de la manière suivante. Mais j'ai dû ma vie qu'à deux choses, je le précise tout de suite puisque je suis encore là. C'est que premièrement, il y avait grève en plus des aéroports en Espagne, grâce à cette mort donc prématurée. Et nous avons eu la chance de pouvoir nous poser et au sol, on a pu me ranimer. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'étais en train de préparer dans ma tête tout ce que j'avais à faire dans les 10 jours qui suivaient. J'avais des conférences à faire dans le nord de la France, j'avais le centre de Paris animé, et je devais partir le 10e jour après pour l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, pour moi, est un coin où je vais beaucoup. J'avais un énorme travail à faire dans les mines, notamment sur les problèmes de noirs. Bon. Et là, paradoxalement, j'étais en train de lire, pendant que je pensais à cela, dans un journal que tenait mon voisin de gauche, mon ami, sur ses pattes, et je voyais les problèmes des Noirs en Afrique, et notamment dans les mines. Ça tombait bien, j'étais plongé dans le même système, et subitement, je suis entré en déconnectant dans la mine. J'ai eu cette impression d'entrer dans cette mine que je connais bien, puisque je connais les mines là-bas pour y travailler.
Je veux dire, au moment où vous vous êtes évanoui.
Je me suis évanoui.
Vous étiez en train de mourir.
Je me suis enfoncé dans cette mine. Je me suis enfoncé avec quelque chose de très curieux, c'est qu'immédiatement j'ai eu la projection totale de tous mes derniers ennuis, et Dieu sait que la vie est pour tout le monde pareille, et j'ai la chance, je peux dire aussi, d'avoir beaucoup d'ennuis, ce qui me permet de mieux comprendre la dynamique des autres, et les derniers, les ennuis étaient assez importants pour qu'ils reviennent à la surface, j'avais des ennuis avec les collègues, j'avais des ennuis en famille, j'avais des ennuis avec une fille, enfin mille choses qui me tombaient sur la tête, mais auxquelles je fais toujours face, parce qu'au fond, j'ai la force chaque fois d'être assis en dehors pour que les autres prennent le problème pour eux, pas trop pour moi. Eh bien là, subitement, tout ça m'a assailli. Et à mesure que je m'enfonçais, non seulement j'ai eu ces faits nouveaux qui m'arrivaient, mais j'ai vu immédiatement, en m'enfonçant, la projection de toutes les strates de mes vies passées, de ma vie passée, je dis bien.
Comme si on déroulait un film.
Et comme si je déroulais un film à l'envers. Et en allant de plus en plus vers mes problèmes antérieurs, et à un moment donné, j'avais presque l'impression de m'enfoncer dans une sorte de glu de plus en plus épaisse, de plus en plus désagréable, de plus en plus irrespirable.
Aviez-vous peur?
Rien du tout.
Est-ce que vous vous disiez à ce moment-là, je suis en train de mourir?
Rien du tout. Est-ce que tout le monde fait la même expérience? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je passe ma vie souvent à préparer les gens à la mort, parce que ça fait partie de ma dynamique, et toujours je leur montre peut-être qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Je dois avouer que j'étais tranquille.
Alors là, vous vous sentiez étouffé, vous sentiez...
Donc ça devait peut-être marcher avec ma respiration qui partait, et tout mon arrêt. Et alors que je m'enfonçais dans un infini qui semblait devenir de plus en plus épais, mais de manière de plus en plus à la fois difficile à pénétrer, mais de plus en plus rapide, jusqu'au moment où j'ai eu le sentiment de changer de direction, ce fameux tunnel, comme dans les descentes dans les mines, j'ai pris ensuite une direction d'une trame qui semblait horizontale, légèrement ascendante, et au fond, j'ai commencé à voir peut-être un point qui commençait à être lumineux, qui me permettait de voir une sorte de sortie, comme un tunnel qui finissait à sa fin. Et puis peu à peu, à mesure que j'avançais, avec une sorte d'allègement, une sorte de facilité, une sorte de déconnexion, comme si je laissais quelque chose et qui me gênait derrière moi, et presque avec une sorte de course de plus en plus évaporée et plus légère, je me suis trouvé débouché devant une lumière très extraordinaire à un moment donné, une sorte d'aura.
Extrêmement brillante, dites-vous.
Brillant, mais pas aveuglante.
Non.
Je me suis trouvé donc dans quelque chose d'incandescent, et la meilleure image que je puisse donner, ceux qui ont déjà vu le tableau comprendront ce que je veux dire, je me suis trouvé devant cette image fantastique de Fra Angelico, que je connaissais bien pour l'avoir vu à Florence, dans sa cellule, et c'était clairement de la vie qui se présente elle-même.
Et là, vous vous sentiez bien?
Je me suis senti merveilleusement bien, sans appréhension, et... À un moment donné, il sent donc comme un passage que chacun devait faire, comme si je vais changer de polarité, que tout le déroulé de ma vie était là maintenant. C'était ça le bilan qui se faisait. Et au fond, je pense que la fin est toujours exceptionnelle, et peut-être pour tout le monde. je crois que c'est la chance d'être revenu.
Et comment ça s'est terminé?
Eh bien, ça s'est terminé que subitement, les bruits sont revenus. Je me suis donc trouvé au sol avec de l'oxygène et tout ce qu'on veut. Et avec ceci qui m'est venu, la première pensée, sans appréhension, sans rien, je me suis demandé si je n'avais pas parlé, ça c'est curieux, et subitement je me suis dit, mon petit ami, tu es là, c'est qu'il faut continuer. Au fond, ce que j'apprends toujours à mes gens qui sont tellement dans l'angoisse, en leur disant, si demain matin vous êtes éteint, votre mission est terminée, et si vous êtes réveillé, c'est qu'il faut la continuer.
Mais pendant que vous faisiez ce voyage, oui. C'est-à-dire à un certain moment, vous avez été cliniquement mort.
Oui.
Vous le savez maintenant parce qu'il y avait un médecin dans l'avion et oui. C'est lui qui vous a réanimé.
Exactement. Hein? J'ai eu la chance qu'il y ait un collègue sud-américain.
Pendant ce temps-là, il y a des gens qui travaillaient sur votre corps.
Comme faire respirer, respiration, tout ce qu'on veut.
De l'oxygène, des piqûres peut-être.
Oui. Mais ça, je n'ai rien vu.
Vous n'avez rien vu. Vous vous êtes réveillé combien de temps après l'avion s'était posé? Donc une demi-heure.
Faire une bonne heure après, oui.
Et le médecin vous a dit que vous aviez été mort?
Ah oui, tous, mon épouse aussi, qui a été plus ébranlée que je ne pouvais l'être. Moi, j'ai traversé ça avec une souplesse et une tranquillité exceptionnelles.
Et vous en êtes sorti donc de cette chose-là en ayant changé certaines de vos conceptions?
C'est ça. Le lendemain, donc, j'ai pu continuer mon activité. Je veux dire à quel point je suis toujours un animal un peu difficile. Et pendant 2-3 jours, j'ai bien travaillé. Et puis après, je dois dire que pendant 10 jours ou 3 semaines, je ne sais pas comment j'ai vécu, j'ai eu surtout besoin de dormir comme impression. Mais c'est vrai que toute mon éthique a changé. Et je dois dire que depuis, ma tranquillité intérieure, qui était déjà grande, a décuplé et mon point d'impact relationnel est beaucoup plus grand.
Oui, vous dites depuis cette expérience dans votre livre vers la fin, là, vous racontez que, vous dites tout simplement, la mort n'existe pas, vous l'affirmez, soulignez.
Oui.
Ce qui a toujours été ma foi profonde, à savoir que nous ne mourrons jamais. La mort n'existe pas. Le dernier envol, celui qui nous hisse jusqu'à la plénitude de notre être. Parlant de la mort, vous en parlez ainsi. Est-ce que ça veut dire que vous croyez à la survie de l'âme d'un monsieur qui s'appelle actuellement Monsieur Alfred Thomas?
Pas du tout. Alors, ça serait être à côté de la plaque tout de suite. Je ne crois pas à la survie. Pour moi, c'est même... Je crois simplement que l'existence est un état précaire. Et qui est insufflé par la vie à tout le monde dans un paquet moléculaire qui ne fait jamais que 80% d'eau, quelques sels minéraux qui se courent après. Et tout le travail de chacun, c'est de savoir que nous ne sommes pas ce paquet moléculaire, cette masse, mais la vie qui est à l'intérieur. Et celui qui a pu faire l'analyse, qui a pu entrer dans cette révélation de ce qu'est la vie en elle-même, et qui ne devient que la vie, et plus son corps, il peut se débarrasser de son corps sans inconvénient. Mais il perd en même temps l'étiquette. C'est-à-dire son personnage, le persona, le masque. Il perd en même temps l'individu. Il perd en même temps même l'individualité pour rentrer dans ce côté étalé qui est universel.
Donc ce voyage-là, quand vous êtes entré dans la mort et quand vous avez vu cette lumière, j'imagine que si vous n'étiez pas revenu, vous vous seriez comme dissous, si on veut, dans cette lumière. Vous n'auriez pas aujourd'hui conscience d'avoir été. Vous n'auriez pas souvenir d'avoir été.
Bien sûr que non.
Cependant, vous croyez que la mort n'existe pas.
La mort en tant que telle, si vous voulez, la vie... Encore une fois, n'a rien à voir. Son antithèse, c'est pas la mort. C'est l'existence qui se termine par la mort. C'est-à-dire le non-être qui, à un moment donné, s'achève. C'est-à-dire celui qui n'a pas la chance de pénétrer dans la dynamique de vie restera toujours dans le non-être, c'est-à-dire suspendu à son nom, à ses acquis, à ses relations parentales, enfin tout le souvenir, toute la mémoire qui nous accroche et qui nous fait marcher par notre propre volonté, nous fait oublier qu'il y a une volonté d'un être qui est en dessous. La difficulté, c'est de découvrir l'être. Chaque fois qu'on veut le saisir, il s'efface.
Mais l'être, c'est quoi?
Eh bien, l'être, c'est justement cette dynamique de vie que vous donne l'univers en totalité.
C'est ce qu'on pourrait appeler l'énergie.
Mais Deus, ça veut dire l'énergie.
Oui, qui nous a fait, qui nous fait.
Qui nous fait, qui vous porte, qui vous transporte et qui vous emmène, mais à condition ensuite de l'enfourcher, de n'être que lui et pas le reste.
Alors, la survie individuelle, de l'âme individuelle...
L'âme, c'est quelque
vous
chose...
Vous n'y croyez pas?
Non, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que c'est le mot âme qu'on ne comprend pas bien. Âme et anima et animal, c'est la même chose. Hein, c'est la même étymologie. Au fond, à un moment donné, pour que cette force qui nous insuffle, qu'on appellera entre guillemets le souffle, l'esprit, c'est la même chose.
Ou l'énergie.
Devrait devenir, à un moment donné, ou l'énergie vitale de Bergson.
Oui.
Devrait devenir, à un moment donné, aussi limpide, aussi tranquille, et qu'elle est entrée pour qu'elle en sorte.
Qu'avant.
Sans quoi, si vous introjectez, à un moment donné, toute votre vie passée, tout ce que vous mettez dedans, vous avez vos états d'âme. Et là, vous êtes coincé. C'est pas du tout ça qu'il s'agit. Il s'agit d'épurer ceci pour que votre âme soit sans couleur, comme dit l'Indien. Autrement dit, une fois qu'on est libéré de tous ces problèmes, cette âme-là, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que si on emmenait dans sa valise tous ces tracas, ça serait pas drôle.
Moi, j'ai eu l'impression, en lisant votre récit que vous racontez dans L'Oreille et la Vie, le récit de cette mort, de cette deuxième mort, de vous, que à un moment donné, quand vous vous approchez de cette espèce de point lumineux, d'ailleurs, tous ceux qui ont fait cette expérience et qui ont été réanimés, le docteur Moody, un Américain, parle de certains de ces cas, et à peu près tous vivent à peu près ce que vous avez vécu, d'après leur témoignage. À peu près tous ces gens-là, à un moment donné, se sentent, après une période d'étouffement, là, ou probablement c'est quand physiquement ils étouffaient, ils se sentent comme libérés et ils sentent une espèce de plénitude. On peut appeler ça une joie. Et on le sent dans la façon dont vous racontez votre chose. Est-ce que ça ne peut pas vous donner le goût, après avoir connu ce début de voyage, de le poursuivre jusqu'à sa fin? En somme, est-ce que ça ne vous enlève pas le goût de vivre?
Non, une fois ça que vous m'a donné le goût de vivre, c'est-à-dire de trouver la même plénitude dans mon existence actuelle, mais ça ne me donne pas le goût d'exister, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une discipline interne et qui fait qu'à un moment donné, j'essaye de vivre, d'adhérer toujours à cette expansion de l'être et de le retrouver en permanence, sans me trouver englué dans tous les épendimatas que nous offre l'existence. Donc là, il y a un clivage. Mais je pense que les expériences sont données à quelques-uns de le faire pour au moins tranquilliser, en tout cas dans mon activité, c'est facile, celui qui a tellement peur de la mort. Et ce qui est paradoxal, c'est que ceux qui vivent le moins sont ceux qui ont peur de la mort.
Oui. Alors ça veut dire ça que vous, si vous aviez déjà eu peur de la mort, j'imagine, comme à peu près tout le monde, vous avez maintenant moins peur.
J'ai eu la chance de ne pas avoir trop peur, et je crois que j'ai la chance de ne plus avoir peur du tout.
Et vos patients, parce que vous êtes quand même un praticien encore, vous avez, j'imagine, des fois affaire à des gens qui sont tout près de l'échéance. Oui. Comment pouvez-vous leur passer cette sensation que vous avez vis-à-vis de la...
Je crois que c'est tout notre travail et que je ne pense pas que le médecin ne soit jamais trouvé devant le problème de la mort, qui est la grande incompréhension même pour le médecin. Ouais. On sait bien qu'il y a usure, on sait bien que c'est terminé, on sait bien, mais il faut préparer l'autre. Et à un moment donné, lui faire ce passage en lui montrant qu'au fond, il y a une sorte de mission et qu'il doit découvrir à l'intérieur, non pas ce pauvre qui a vécu, mais l'être qui est à l'intérieur dans sa dynamique de vie et qu'il y a un prolongement et c'est facile de l'y conduire. En lui montrant bien qu'au fond, depuis que nous sommes sortis du ventre de la mère, de la filière vaginale, de la filière du berceau, de la famille, de la société, tout ce qu'on veut, nous sommes toujours en train que d'accoucher. D'accoucher avec un satellite fantastique, satellite qui est un corps humain, satellite qui nous montre que nous sommes envoyés peut-être d'ailleurs d'un cosmos qui nous téléguide, et qu'à un moment donné, la mission terminée, le satellite peut exploser, se diluer, éclater, et on redevient l'énergie première.